Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Comics Weekly, épisode numéro 17. Je suis Steve.
Et je suis Monsieur Honey Bunny, Mister Honey Bunny, voilà.
Non, puisque c'est VO, donc Mister.
Et oui.
Donc, nouvelle semaine de comics, semaine un petit peu dérangée suite au Labor Day qui a eu lieu lundi aux États-Unis. C'est une espèce de fête du travail, un peu comme le 1er mai chez nous. Et
Voilà.
donc les comics ne sont pas tous sortis le mercredi, certains sont sortis jeudi. Bref, en gros, on n'a pas eu exactement tout ce qu'on voulait, donc on a fait avec ce qu'on a pu trouver et ce qu'on a reçu. Et ouais, voilà, donc on n'a pas exactement le programme qu'on avait prévu au départ.
Oui, c'était assez laborieux cette semaine, c'est le cas de le dire.
Oh oh, 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 première vanne.
Oh, oh, attention jingle.
La vanne des 1 minute, donc.
Voilà, la fameuse vanne des 1 minute.
Voilà, donc on saute dans la machine à dédé. On
ah oui,
se dirige tranquillement vers les États-Unis.
Oui, vers le Texas plus précisément, qui nous accueille à bras ouverts chaque semaine.
Apparemment. Oui.
Apparemment. Si on en croit les statistiques, il y a beaucoup de Texans qui nous écoutent. Donc, c'est la statistique de la machine à dédé en plus, hein, donc on lui fait confiance.
Et donc, pendant ce petit voyage en notre compagnie, bah, ça fait un peu hôtesse de l'air là. Hein. On va faire le numéro de la semaine.
Et servir du jus d'orange, qui veut.
Pourquoi du jus d'orange?
Hôtesse de l'air. Je sais pas.
je cherche un lien, mais j'en trouve pas.
Et les hôtesses de l'air, qu'est-ce qu'elles font durant le voyage, à part te servir du jus d'orange et te...
Ouais, enfin, y a pas que du jus d'orange, quoi. Ça peut être autre chose comme boisson. Non, je croyais que c'était un truc en particulier, que le jus d'orange, je me disais, il y a un truc.
Non, mais je sais pas. Moi, j'ai souvenir du jus d'orange dans l'avion.
C'est du grand n'importe quoi. Le numéro de la semaine, bah, je te laisse commencer, cette fois-ci, Benny.
Oui, alors, moi, je vais commencer. Donc, on est au numéro 17. Donc, pour moi, cette semaine, ce sera le Daredevil 17. Alors en fait, bon,
volume
c'est pas un épisode...
1 ou 2.
Ah, premier volume, ouais, premier volume. C'est pas un épisode super passionnant, comme d'ailleurs tous les premiers Daredevil qui, il faut le dire, c'était pas la série la plus... En fait, la plus rassembleuse de
ah,
fans.
Il y avait des bons épisodes au début, quand même.
Ouais, non mais c'était... Enfin voilà, quoi, c'était un petit peu un rip-off de Batman, quand même, faut dire, au début Daredevil, le personnage. Alors, bon, alors, les dessins étaient très bons, hein... D'accord, mais avec des gens comme Jim Collan, etc. Mais bon, les scénarios, ça restait un petit peu simple, on va dire. C'était du super-héros classique, quoi. Et donc là, c'est un épisode avec Spider-Man et ils affrontent le maraudeur masqué. Et d'ailleurs, Frank Miller fera donc une sorte de séquelle à ça, une sorte de remake quelques années plus tard. Et ce sera l'un de ses premiers travaux, je crois, chez Marvel. Donc voilà, il dessinera notamment donc ces deux épisodes de Spectacular Spider-Man plus tard où à nouveau Daredevil et Spider-Man font équipe contre le maraudeur masqué.
D'accord.
Donc mine de rien, ce team-up contre le maraudeur est assez connu.
C'est la première apparition du maraudeur.
Mais je crois que c'est dans l'épisode précédent. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai pas vérifié ça, mais je crois que c'est dans l'épisode précédent puisque c'est la deuxième partie d'un arc en deux, donc.
Oui. Donc voilà. Oui, forcément. D'accord, très bien. Bon, alors pour ma part, moi j'ai choisi le Captain Marvel volume 1 numéro 17. Scénario Roy Thomas et dessin de Gil Kane. Voilà, déjà du grand. Ça date de 1969 et c'est l'épisode où Captain Marvel change de costume. Exit le costume vert et blanc qu'il avait au tout départ avec le symbole Kree, le casque Kree, etc. Et on trouve le costume rouge que l'on connaît beaucoup plus aujourd'hui.
Oui, parce que au bout de 16 épisodes, ça commençait. Hein.
Voilà. Et puis surtout,
un petit coup de Mirror Machine.
Voilà. C'est aussi surtout l'épisode où Captain Marvel a un alter ego humain en la personne de Rick Jones.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'est donc dans cet épisode que non seulement il change de costume, mais devient une partie de Rick Jones. Et Rick Jones frappe ses bracelets pour devenir Captain Marvel façon un peu Shazam et Captain Marvel de chez DC.
Il y a un truc que j'ai jamais compris avec Rick Jones. Alors Rick Jones, c'est le même que celui dans Hulk, c'est ça hein?
Exactement, oui. D'ailleurs, on voit Hulk et vite fait, ben, peut-être dans un flashback, on voit aussi Cap dans cet épisode.
Donc Rick Jones, c'est un petit peu le Jimmy Olsen de l'univers Marvel, quoi.
Totalement. Totalement, ouais. Mm-hmm. Le mec qui est passé partout, quoi. Donc voilà, donc c'était quand même un épisode où voilà, ça a donné quelque chose d'assez classique, puisqu'aujourd'hui, on n'imagine pas Captain Marvel sans son costume rouge.
Oui, c'est vrai. Et sans son concert, donc, aussi, malheureusement pour lui.
Ouais, c'est tout de suite, tu casses l'ambiance, toi, hein.
Oui, j'ai dit son concert, hein, pas son concert non plus, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir écorché le mot, donc que les gens comprennent de quoi je parle.
Bien, bon, on va s'attaquer aux news. Et
Oui.
donc là, je te laisse.
Ah oui, tu me laisses. Alors, bon, petite semaine de news, hein, aux États-Unis,
Bah,
comme c'était le
Labor Day,
Labor Day, comme tu disais, donc pas de grosses news, surtout du côté de la VO, il y en aura plus du côté de la VF, bien plus d'ailleurs.
on en reparle d'ici quelques jours.
On en parle d'ici quelques jours. Il y aura du Lille Comics Festival et d'autres choses. Voilà, un petit coup de teaser, un petit coup de pression. Donc, bon, on va commencer par un truc assez sympa, c'est la Hero Initiative. Alors, rappelle-toi, la Hero Initiative, c'est l'association caricative, je vais y arriver, qui vient en aide aux artistes, donc notamment pour payer leur retraite, puisque tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas le droit à des retraites ou qui ont des toutes petites retraites.
Payer leurs soins médicaux aussi.
Oui, voilà. Aussi, surtout payer les soins médicaux. On sait que, bah justement, je crois que c'était Gene Colan qui en avait eu grand besoin.
Oui, on avait eu aussi un scénariste qui était devenu aveugle et il a pu avoir une opération il y a quelques mois grâce à ça.
Oui, tu l'avais dit dans un Comic City, mais je ne sais plus.
J'ai totalement oublié son nom et c'est terrible. J'ai un trou de mémoire.
Bon. Peut-être que ça reviendra d'ici la fin du podcast, mais en tout cas, les années précédentes, on avait eu des couvertures donc, dont les thèmes étaient Wolverine ou encore Spider-Man. Et bien cette semaine, cette année, je veux dire, c'est les Vengeurs. Voilà.
Donc les 100 couvertures dessinées par 100 artistes différents, toutes mises aux enchères, comme d'habitude, quoi.
Alors, il y a du Howard Chaykin, du Mike Deodato, du Terry Dodson, du Ian Churchill, du Steve Epting, du Dave Gibbons, du Adam Kubert et d'autres, notamment, mais enfin voilà, ça en fait déjà quelques-uns. Et donc on peut voir certaines de leurs couvertures qui reprennent, comme tu le dis bien sûr, des classiques, en fait, des couvertures classiques des Avengers, et d'autres compositions un peu plus personnelles d'ailleurs. Mais on vous mettra le lien vers des couvertures déjà disponibles.
Et puis bah, si vous avez un peu d'argent, vous avez envie d'avoir une planche originale.
Voilà, c'est ça le
vous
truc.
Ferez en même temps une bonne action, quoi.
Exactement, oui. Les couvertures sont à, enfin les couvertures. Oui, c'est d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est des couvertures? Non, c'est aussi des comics, je crois. Il y a le comics avec.
Il y a un comics et puis on peut acheter aussi les planches originales, je crois.
D'accord.
Je voudrais pas dire de bêtises. Tu me mets le doute maintenant.
Oui, mais là, j'arrête pas. Et donc voilà. Donc en tout cas, les couvertures sont à acheter. Par contre, ça coûte évidemment un peu cher vu que c'est des pièces uniques et c'est surtout fait par de grands artistes. Donc ça coûte plus cher qu'une commission, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Donc,
voilà.
On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent.
Et comme mon père dirait, et le cul de la fermière.
Bon, voilà. Ça dépend, ça. C'est négociable, dirons-nous. Donc, sur le cul de la fermière, nous allons passer à une autre news. On va rester toujours chez Marvel. Et en fait, on va aussi mettre un lien, puisque c'est tout simplement un lien vers un vidéo trailer de la nouvelle série Uncanny X-Force. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, je l'ai pas vu, non.
Donc, disponible notamment sur le Facebook de Marvel, donc une vidéo qui donne envie quand même de lire cette série. La vidéo est pas mal foutue, on sait qu'ils avaient fait un peu la même chose pour Secret Invasion.
Ouais, moi, je suis encore pas vraiment vendu par le concept d'Uncanny X-Force, et notamment la composition de l'équipe, quoi. Sans parler du pitch général.
Oui.
Bon, en gros, y a rien qui m'attire plus que ça, quoi.
Oui, non, moi non plus. Honnêtement, m'étais dit, ça va être terrible, ça va être un truc foireux et j'ai beaucoup aimé. Autant là, j'ai peu d'espoir, honnêtement.
Bah, on sait jamais. Ça peut être une très très bonne surprise une fois de plus, quoi. Donc, bon, voilà. Faut pas trop juger trop vite, mais c'est vrai que, ça part pas très bien, quoi.
Oui. Voilà. Les X-Force avec Phantom X, je ne sais plus qui d'autre.
Et Deadpool.
Oui, qui vont affronter Apocalypse. Craint. Déjà, oui, c'est
le choix du casting qui me gêne le plus. Au-delà du pitch, c'est vraiment le choix du casting, quoi. Deadpool, c'est bon, quoi.
Oui. Enfin, si, c'est bon. Donc.
Ok.
Voilà.
Dernière petite news.
Oui, j'en ai une autre, figure-toi. Alors, c'est vraiment une petite news, hein. Je vous parlais la semaine dernière, je crois, du trailer Walking Dead sur l'épisode 80, avec ce début de l'arc No Way Out. Eh bien, nous avons eu un autre trailer, enfin une autre affiche, au fait, où c'est marqué Desperate Times Call for Desperate Measures. Donc, qu'en français,
Je te laisse un peu galérer avec la traduction.
en français, ce serait l'expression, je sais plus. Voilà, je sais qu'il y a une expression française qui correspond exactement à ça, et je ne l'ai même pas en tête. Je l'ai sur le bout de la langue, simplement.
C'est terrible parce que je suis en train de chercher comme un cave sans rien dire, mais je trouve pas l'expression non plus. Mais bon, ouais, en gros, voilà, les temps désespérés nous obligent à des mesures désespérées, traduit
Oui,
littéralement, à
non
peu
mais
près.
attends, il y a forcément une expression française.
Au grand mot, les grands remèdes.
Mais c'est ça. Les grands mots, les grands remèdes, oui, tout à fait.
Je dis un peu n'importe quoi.
Non, non, mais si, si, si.
Je crois qu'il y a une expression qui est plus juste, mais là je l'ai pas en tête et comme je sais que le temps tourne, ça me stresse.
Oui, non, et alors le temps tourne, mais c'est ça. Mais t'as fait un très beau Camoulox. Voilà. Alors donc, sur l'affiche quand même, précisons, donc on voit le jeune protégé de Rick là, comment s'appelle-t-il avec sa casquette?
Oh là là, mais les trois
Ouais.
news, ça va bien cette
Des
semaine.
questions fusent aujourd'hui.
12 minutes et voilà, ça y est, on a déjà des trous de mémoire de partout.
12 minutes déjà?
Ouais.
Non.
Si,
Ah bon. Bah alors donc juste pour te préciser. On voit ces personnages essayer d'échapper à des zombies en jouant, tu sais, enfin, pas aux
à la
équilibristes.
marelle.
Non, non, ils sont accrochés à une espèce de fil, donc on dirait un fil à haute tension ou je ne sais quoi, et en dessous, il y a plein de zombies qui essayent de les choper. Donc ça a l'air vraiment, vraiment très très tendu, quoi.
Est-ce qu'il glisse un peu façon,
Bah
tu sais,
là.
avec une ceinture façon Tango et Cash?
Ah non, non, du tout, du tout.
Ah
Non,
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 ils sont vraiment juste accrochés au fil.
à main nue, enfin à main nue.
Ah
Non,
d'accord.
ils portent des gants, quoi, mais disons que voilà, on a l'impression qu'il y en a un des deux qui va rapidement tomber parmi les zombies. Donc ça a l'air très très chaud, quoi. Ça va être chaud. Voilà. À partir du 80, faut s'attendre à des choses qui vont mettre les nerfs des lecteurs à rude épreuve. Voilà.
Bon, alors maintenant que la machine est déposée, on va attaquer les reviews. Et on commence avec une double review cette semaine.
Oui, double double. Donc c'est-à-dire que deux comics pour le prix d'un en double review.
Et
Et on aurait bien aimé d'ailleurs que ce soit pour le prix d'un d'ailleurs,
Oui, on aurait aimé.
même en l'achetant, parce que y en a un qui coûte cher, déjà plus cher que d'habitude, vu qu'il fait plus de pages, et l'autre qui en fait le même nombre que d'habitude, mais qui n'est pas plus terrible que ça, quoi. Enfin, on va y
Donc,
venir.
on va y venir tout de suite. Ce sont, puisque c'est encore une espèce de petit cafouillage dans le plan de distribution de chez Marvel, les épisodes 641 et 642 d'Amazing Spider-Man, qui sortent
Et
tous les deux cette semaine, comme on a eu la même chose il y a de ça un mois ou deux, je crois, 2 mois.
parce que retard de Joe Quesada, certainement retard de Joe Quesada, donc le dernier numéro de One Moment in Time a été décalé jusqu'à maintenant, et du coup ils ont sorti le premier de l'arc suivant maintenant, puisque sinon ça faisait un décalage trop important par rapport à ce qu'ils avaient prévu.
Voilà, donc on va attaquer le 641, pour commencer, c'est mieux, hein. Dernière partie de, comme tu disais, One Moment in Time, le scénario de Joe Quesada, avec quelques dessins de Joe Quesada sur les parties présentes, le reste des dessins est assuré par Paolo Rivera. Voilà.
D'ailleurs, je précise que Paolo Rivera, cette fois-ci, fait un travail un peu moins fouillé que les fois précédentes, puisque t'as quand même un certain nombre de pages où tu vois trois personnes sur un fond noir. Bon, je veux pas chipoter, mais c'était juste pour dire qu'on a attendu longtemps et que cette fois-ci, en plus, même Paolo Rivera
Je pense que le mec
fait
avait
moins.
fini ses pages bien en avant, mais
Oui. Oui, mais c'est, enfin voilà, c'est on va
c'est
dire, c'est
l'autre
la partie
tanche
qui va
qui
demander
avançait
le
pas,
moins de
quoi.
boulot, je pense.
Et quand je dis l'autre tanche, je pèse bien mes mots, hein. Donc, voilà, pour moi, c'est une totale réécriture de Brand New Day. puisque finalement, ou alors j'ai raté quelque chose et je me rappelle plus d'un truc, mais il est où le deal avec Mephisto?
Oui, je ne sais pas. En fait, je n'y comprends plus rien. C'est, alors, tu vois, c'était censé rendre les choses plus faciles et plus compréhensibles. La même moi, je ne sais plus. Et je veux même pas le savoir, en fait.
Parce que on voit dans la première partie, Mary Jane qui susurre un truc à l'oreille de Mephisto, enfin, sans le
dire. Tu m'as fait peur, tu m'as fait très peur.
Je sais, je choisis bien mes mots. Et, en fait, la grande phrase qu'on voulait savoir, c'était, je sais plus d'ailleurs ce que c'était, je crois que c'était quelque chose genre, lui fait plus de mal, ou laisse-le tranquille,
oui,
ou
tout oui.
Genre. Et donc là, finalement, bah, c'est pas un pacte avec Mephisto, mais c'est en allant voir Doctor Strange qui, lui, se réunit avec Reed Richards et Tony Stark pour finalement faire oublier à tout le monde.
Alors, attends. En fait, Mephisto, à la base, rappelle-toi, c'était pour que Tante May survive.
Ouais.
Puisque Peter Parker pleurnichait comme un gamin. « Ah, c'est de ma faute, je le supporterai pas !» Donc, voilà. Donc, Mephisto, semble-t-il, a, comment dire, influencé les choses pour que... Tante May survive, puisqu'on a eu dans le numéro précédent, donc je ne sais pas si tu l'as lu finalement.
Oui, si, j'ai rattrapé le retard, parce que je les avais voilà. pas lus
donc,
encore.
Peter Parker a joué les infirmiers, ouais. Et a fait
Comment a-t-il fait pour ne pas lui éclater les côtes, vu oui. la force qu'il met, ça on sait pas.
Exactement, mais... oui. Comment a-t-il fait pour ne pas broyer Tante May en morceaux,
parce
en lui
appuyant voit, sur... enfin, il y va comme un barbare, quoi, ça se voit dans les cases.
Oui, mais c'est Joe Quesada au scénario, donc il ne doit pas savoir qu'il y a une super force d'araignée proportionnelle à sa taille. Bref. C'est du grand n'importe quoi. Et donc, je crois que Mephisto, bah, en fait, il est responsable surtout de ça, quoi, du fait que Tante May survive comme par magie.
C'est je crois que c'était le pigeon rouge, selon tes dires. Je pensais que c'était en fait moi ce corbeau, hein, qui était Mephisto, qui ouvrait la porte au
oui.
petit brigand.
Oui,
que vous voyez
aussi,
dans le premier épisode.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi le coup du mariage que j'ai. Tu vois, je l'ai même enlevé mon esprit tellement c'était mauvais. Donc, enfin, tout était mauvais de toute façon. Mais donc, je crois que voilà, Mephisto a fait ça, mais que du coup, ni Marie-Jeanne ni Peter Parker ne se rappellent de son intervention. Donc, c'est pour ça que là, dans ce que se rappellent Peter Parker et Marie-Jeanne, il n'est pas fait mention de Mephisto. En fait, on voit ce dont il se rappelle dans cette partie, si j'ai bien compris.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on voit leur version des choses. On voit ce dont il se rappelle, et donc on apprend qu'il se rappelle du pacte à propos de l'identité secrète, au fait.
Ben ouais, non mais bon. Moi, franchement, bah, ça m'a fait chier, quoi. Ouais. Quesada a finalement eu ce qu'il voulait. Il a réussi à faire séparer définitivement Peter Parker et Mary Jane, enfin, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le remettre, de les remettre ensemble, en tout cas, peut-être d'ici 10 ans.
Mm-hmm.
Et tout ça sans les faire divorcer.
Bon, enfin, en gros, t'as Marie-Jeanne qui lui dit on va pas rester ensemble parce que alors Quesada dit qu'ils ne peuvent pas se marier parce que ça sert à rien de se marier sans avoir d'enfants déjà. Alors, c'est extraordinaire. On se marie
gens,
pas
ouais.
si on n'a pas si c'est pas pour avoir des enfants. Et puis secondo,
donc les gens stériles aussi... ne doivent même pas se marier puisqu'ils n'ont pas droit.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, si on en croit Quesada, enfin si on suit sa logique, ça voudrait dire ça. Et surtout, tant que Spider-Man et Spider-Man, au fait, eh bien, il ne peut pas se marier parce qu'il prend trop de risques. Donc, on se demande ce que font les flics, les pompiers, etc. Donc, ça doit être des gens qui ne se marient jamais non plus. Sinon, ils sont pas responsables, selon Joe Quesada, toujours. Voilà. Non, mais enfin, en gros, ça veut dire ça. Hein.
Oui, non, mais oui, je suis...
C'est sa logique, quoi. Bon. Bref. Bah oui, comme tu dis, c'est très mauvais. Et puis surtout, le deal donc entre Reed Richards, Tony Stark et Doctor Strange à propos de l'identité secrète de Spider-Man. Non seulement l'explication est capillotractée, hein, quand même, le coup de
totalement.
Le virus extrémis. J'ai même pas compris de quoi il s'agissait.
Enfin, moi déjà, ce qui m'a un petit peu gêné là-dedans, c'est que Reed accepte tout de suite de faire un truc par rapport à la magie. Lui, l'homme de science, il s'en remet à la magie. Enfin, ça m'a paru un petit peu out of character, tu vois.
Surtout, c'est hyper dangereux. Il manipule l'esprit de tous les terriens, sans même savoir si ça va fonctionner. Donc, imagine que ça ait merdé, qu'ils aient complètement, comment dire, trifouillé leur cervelle et que ça n'ait pas fonctionné.
Ouais, non, mais...
voilà, quoi. Ça serait quand même dramatique.
C'est peut-être à cause de ça que Osborn est passé au pouvoir, ensuite.
Ben,
on sait jamais. Peut-être qu'on aura cette explication-là un jour.
Oui, comme répercussion, oui, peut-être, oui. Bah ouais, je sais pas. Mais surtout la grosse complainte, c'est pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça il y a 2 ans.
Bah oui. Non mais oui, voilà. tout ça pour ça.
3 ans même maintenant, d'ailleurs.
Moi, franchement, ce qui en ressort, c'est tout ça pour ça.
Oui, tout ça pour ça. Il suffisait de nous mettre une page explicative au début de Brand New Day et nous dire voilà.
Ils auraient très bien pu nous faire Brand New Day, l'histoire de Brand New Day, ils nous faisaient ça, et puis c'était bon, c'était réglé, quoi.
Oui, oui, voilà. Au moins, on aurait su de quoi il en retournait. Là, on a eu tout ça, oui, pour rien du tout. Pour des trucs à la con, du style jackpot, est-ce que c'est Marie-Jeanne? Bah, on se doutait bien que non, enfin. Puis des trucs inintéressants. Donc voilà, donc vraiment très très mauvais, sans intérêt, déprimant.
Ouais. Voilà. Non mais ouais, non, vraiment. Donc vous aurez compris, c'est un pass.
Totalement.
Voilà. On passe au 642, hein, du coup le deuxième épisode de Spider-Man à sortir cette semaine. Au scénario, on retrouve Mark Waid et au dessin Paul Azaceta pour la première partie d'un nouvel arc qui s'appelle Origin of the Species. Donc Spider-Man, enfin Peter Parker est libéré de cette relation avec Mary Jane, il va repartir sous de meilleurs auspices, en tout cas c'est ce qu'on nous laisse entendre à la fin du 641, et il n'en est rien. Bah déjà au niveau des dessins ça pique, hein. Franchement ça pique les yeux.
Oui alors en fait c'était un artiste qui a déjà fait un arc précédemment, l'arc avec Electro, donc on verra dans The Gauntlet. Et effectivement c'est plus proche de l'indé, hein, du comics bah, indé.
Moi, ça m'a rappelé par certains aspects un petit peu, et au niveau de la colorisation aussi, hein, qui a joué un petit peu le travail de McElred, mais en vachement moins bon quand même. Peter Parker a une tête, mais ignoble.
Oui, Peter Parker a une tête ignoble.
J'avais pas reconnu en fait sur la première case. Si son nom était pas donné, j'aurais jamais su que c'était Peter.
Non, non, moi non plus. Apparemment, donc, il y a des gens qui adorent, mais alors franchement, Peter Parker, il est laid, hein. Il est vraiment très moche, il est horrible, il fait des grimaces pas possibles. Et Carly Cooper, alors là, Carly Cooper, il y a une page, on dirait un homme.
Je n'accroche pas du tout au style, en fait. Et en plus, avec quelques scènes de bagarres qui vont dans tous les sens, ça devient très vite fouillis. Et c'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu dommage.
Bah, de toute façon, écoute, franchement, moi je m'attendais à un truc quand même pas mal, il se passe quasiment rien. En gros, au début, rassemblement de plein d'ennemis de Spider-Man,
dans l'ancien manoir Kravinov.
Dans l'ancien manoir Kravinov, donc c'est intriguant, on se dit tiens qu'est-ce qui se passe, qui les rassemble. Quelqu'un leur dit allez me chercher quelque chose, donc on sait pas trop ce que c'est.
Disons qu'ils s'intéressent plus au contenu qu'au contenant d'ailleurs.
Voilà, pour qu'au final au fait tout soit vite expédié puisque on sait déjà qui veut quoi à la fin de l'épisode.
Oui, enfin moi aussi je pense savoir, enfin je pense que c'était cette personne-là.
Oui, ah oui oui, bah oui.
Vu la couleur des bulles, la façon dont c'est écrit, etc., je pense que c'était ça, mais oui. Là, on s'en remet au lettrage uniquement, donc ça peut être autre chose.
Grosse déception quand même, puisqu'on se dit Spider-Man va affronter tous les gens qu'on voit au début, mais au fait, apparemment non, puisque ils doivent aller chercher le fameux paquet, et au fait, ce paquet est récupéré par la personne qui les a envoyés au début. Donc, enfin voilà.
Oui, non, j'ai eu un peu de mal à comprendre, quoi. Enfin, bah, encore, malgré tout, l'histoire pourrait presque être sympa, presque, hein, je dis bien, s'il n'y avait pas tout ce passage sur Peter Parker et cette malchance, qui m'a saoulé, en fait.
Ouais. Non, mais...
Michel qui vend toutes ses fringues pour qu'il puisse payer son loyer, et du coup, il ne reste plus qu'un gros pull, alors qu'il fait une chaleur de fou, et donc il court dans la rue avec un gros pull de montagne.
Excuse-moi.
Tes souhaits. Il court avec un gros pull de montagne, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça à la limite du ridicule, en fait.
Ouais, non, mais
Je suis pas accroché. Alors, est-ce que c'était le 641 qui m'avait déjà déçu avant et que donc forcément je partais qu'un a priori négatif? Quoique non, je partais plutôt qu'un a priori positif. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va relever le niveau. Mais en tout cas, pour le moment, cette première partie est bof, quoi.
Oui, pareil. Non, pareil. C'est voilà, on s'attend à quelque chose. Par exemple, à beaucoup d'action. Étant donné toute la ribambelle d'ennemis qu'on voit au début et on pense qu'ils vont être face à Spider-Man avant de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et puis finalement non. Et puis on a toute une partie, la moitié du comics qui est inintéressante.
Bah, c'est retour au statu quo, quoi. Enfin, je veux dire, on dirait qu'On Moment in Time n'a pas existé. Enfin,
ouais, donc, enfin voilà,
ça ne change rien à l'histoire, c'est-à-dire Peter a toujours pas de fric, il a pas de travail, il galère, et voilà. Et puis tout lui tombe dessus.
Il y a un truc, oui, il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est, heureusement, Michel n'a pas vu mon costume. Mais à quoi ça sert de nous mettre ça, puisqu'on sait très bien que même si elle le voyait, elle penserait que c'est un costume pour se déguiser en Spider-Man, mais elle pourrait même pas deviner que Peter Parker est Spider-Man, vu le deal qu'il a passé avec Stark et compagnie.
Mais oui.
Puisque le seul moyen, c'est de le démasquer physiquement, lui enlever son masque. Donc encore une fois, c'est en plus, même les auteurs, enfin les scénaristes, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment fonctionne le nouveau statu quo. Enfin le nouveau statu quo d'il y a 3 ans. Et ça prouve bien que c'est mauvais, quoi.
Ouais, donc voilà, donc bah là, moi j'irais, disons, je dirais, allez, entre un pass et un check-it, quoi. Mais bon, je penche plus vers le pass quand même.
À voir ce que donnent les prochaines parties,
Bah voilà, peut-être que la suite va relever le niveau, je sais pas en combien c'est, je crois que c'était en 5 parties, Origin of the Species.
Ça va jusqu'au 647, qui
Voilà,
sera un
5 parties.
épisode géant, peut-on dire, fait par toute la bande de Brand New Day, quoi.
Et après, exit tout ça, et c'est Dan Slott qui reprend. On verra bien. Bon, pour le moment, pas convaincu, quoi.
Pas convaincu non plus. Et juste pour préciser qu'il y a toujours le petit strip de Stan Lee et Marcos Martin à la fin. Des deux numéros.
Bien. Bon, bah, on va passer à la suite. C'est moi qui commence les reviews solo cette semaine avec le Batgirl numéro 14. Le scénario est de Brian Q. Miller, le dessin sont de Lee Garbett et l'ancrage de Trevor Scott. Ah bah déjà au niveau des dessins c'est beaucoup plus beau que l'Amazing Spider-Man. En même temps ça pouvait difficilement être pire honnêtement. Là c'est un dessin de super-héros classique. C'est une histoire en voilà une seule partie. Il y a rien à connaître vraiment. C'est un gros team-up en fait entre Supergirl et Batgirl.
Non, mais tu l'as pris, tu l'as choisi parce que t'as bien aimé la couverture.
La couverture était super belle, assez qui donnait un petit peu envie de voir ce qu'il y avait dedans. On voyait Batgirl et Supergirl face à une colonie de Dracula.
Oui, d'accord. Non, mais j'aime bien ton explication, ça donnait envie de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. La couverture était sexy, peut-on dire. Enfin, en tout cas.
C'est pas. Moi, non, j'ai bien aimé le dessin de la couverture et je sais pas l'ambiance qui s'en dégageait avec ce côté film, lunettes 3D, etc.
Donc je précise d'ailleurs que est-ce que le comic c'est en 3D
non,
comme
pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le film n'a rien à voir, le comic n'a rien à voir avec la 3D. Enfin, c'est une des raisons de l'histoire parce qu'elles vont voir toutes les deux un film en 3D, d'où s'échappent des Dracula suite à une expérience holographique qui tourne mal.
Voilà. D'accord. Donc c'est super kitsch. Ça rappelle les comics des années.
Totalement, totalement. Oui. C'est voilà une expérience se déroule mal dans un labo à côté et du coup 24 Dracula sortent du film et ce sont juste des projections holographiques totalement vides et voilà ils vont semer la panique un petit peu en ville et Supergirl et Batgirl décident de s'unir pour les arrêter. Bon franchement il y a rien dedans, c'est juste fun à lire, voilà, mais c'est absolument et totalement mais dispensable.
D'accord, mais par contre, est-ce que l'art intérieur, enfin les dessins à l'intérieur sont les mêmes que ceux de la couverture, c'est
non,
le même
pas,
artiste?
Non, non, pas exactement, non, non. Je sais pas qui a fait la cover, j'ai pas regardé, mais bon, c'est pas du tout le même style, mais c'est du style super-héros classique, quoi, rien de... C'est joli, sans plus, quoi, c'est pas non plus super éblouissant, quoique quand on s'est tapé le Amazing Spider-Man 142 avant, ça paraît magnifique.
Et une promenade dans le parc, quoi.
Mais, désolé à tous les gens qui aiment Paul Azaceta, quoi, mais moi ça passe pas.
Non, mais moi, non, j'ai vraiment eu du mal et j'ai trouvé la tête de Parker encore une fois horrible. Mais bon, est-ce que le titre Bad Girl va continuer longtemps ?
Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Si tous les épisodes sont comme ça, j'en ai pas lu du tout. Hein. J'ai pris celui-ci vraiment parce que la cover m'a fait tilt. Je me suis dit voilà.
En même temps, je te pose une question. Tu sais, c'est quand même extraordinaire. Quel temps fera-t-il à Noël ? Neigera-t-il à Noël, Steve ?
Je ne sais pas. En plus, j'ai pas du tout regardé les chiffres de
vente. Les prévisions météo.
J'ai pas du tout regardé les chiffres de vente de Bad Girl, donc je ne sais pas du tout combien elle vend chaque mois. Je sais pas si c'est une série qui a trouvé son public ou qui galère encore un peu. En tout cas, bon, c'est sympa, mais franchement, ça n'apporte rien, quoi.
Bon, ça fait partie de ces séries qui sont sympathiques à lire, comme Birds of Prey, par exemple. Mais
personnellement, je préfère largement Birds of Prey. Enfin,
oui.
Ça rentre plus dans mes goûts.
Bah oui,
là,
oui, bien sûr. Non,
là,
non,
c'est juste fun, quoi. Pour moi, enfin, c'est pas le même niveau qu'un Tiny Titans, parce qu'un Tiny Titans, je me marre vraiment en les lisant. Mais c'est le genre de truc qu'on lit comme ça, juste pour passer un bon petit moment. On va pas chercher plus loin. Il y a rien à comprendre derrière. Ça va pas vous ganter pendant 3 jours sans avoir trouvé de réponse ou quoi que ce soit. Quoi.
Et puis c'est surtout un truc qu'on n'aura pas en français et donc qui est toujours sympa à découvrir en VO. Quoi.
Voilà, bon, moi je trouve que c'est vraiment totalement dispensable. Celle-là, c'est pareil, c'est en train de check-it et en passe, quoi. Enfin, je veux dire, si vous foutez du personnage, vous foutez de Supergirl, Bah, allez même pas voir, ça sert à rien. Si vous avez envie de passer un bon petit moment avec un truc un peu kitsch, bah allez-y quoi, jetez-vous dessus. C'est sympa, ça se laisse lire, ça prend pas trop la tête. C'est pas excessivement cher, hein, c'est qu'à 2,99€. Donc déjà ça change des comics à 3,99€ comme on a un peu partout. Voilà, donc bon, en train de checker un pass quoi.
Bon, eh ben on va repartir sur le tout aussi dispensable, mais par contre qui est censé être justement un incontournable des sorties de la semaine. Le Batman et Robin, numéro 14, de Grant Morrison et de Fraser Irving au dessin. Alors, déjà, Fraser Irving, c'est comme pour Paul Azaceta, j'ai vraiment du mal. C'est des dessins proches de, je sais pas, de la photo, de la peinture aussi. Enfin, c'est vraiment, j'ai du mal, quoi. Plus qu'encore que dans la première partie. Et peut-être parce que le scénario, justement, de Grant Morrison, autant dans la première partie que j'avais chroniqué dans un Comics Weekly il y a 2 mois de ça, puisque le truc est sorti avec 2 mois de décalage.
Et retard quand tu nous tiens.
Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, la première partie était assez prometteuse, et puis cette partie, bah, voilà. C'est du grand.
C'était en 2 ou 3?
Je crois que c'est seulement la seconde, oui, c'est la seconde partie de cet arc, et je ne sais pas en combien il sera.
D'accord.
Mais en tout cas, c'est d'une banalité, mais alors plus banal que ça, on meurt quoi. En gros.
Moi, je suis en train de penser, comme Return of Bruce Wayne a du retard, peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils ont décalé d'un mois le comic, puisque je crois que la fin de cet arc doit coïncider avec la fin du retour de Bruce Wayne.
Peut-être.
Et que là, ils n'avaient pas le temps de faire un épisode fill-in vu que c'est la série de Grant Morrison pour le moment.
Oui. Alors donc on utilise la mort de Batman version Dick Grayson, évidemment on se doute qu'elle n'aura pas lieu, mais surtout...
Oui, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir 2 Batman.
Voilà, ça a été annoncé en plus. Ils auraient pu garder le secret, mais bon. Bah, ils commencent à se marveliser DC finalement.
Un peu trop, ouais.
Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Faudrait qu'ils gardent un petit peu plus de choses pour eux. Mais donc on commence avec une scène super cliché. La fameuse scène de Robin, donc version Damian, avec la barre de fer. La fameuse barre de fer. Non, enfin, pas la barre de fer, le pied de biche, au fait. Ouais. Voilà, le pied de biche qui est en train de passer à tabac le Joker. Alors bon, voilà, on en parlait l'autre fois dans les parutions françaises. Encore une scène avec le Joker, un Robin et un pied de biche au milieu. Ça tourne limite à l'obsession malsaine.
Ouais, non, mais ouais, c'est un cliché un peu trop vu, quoi, maintenant.
Voilà.
Je sais pas, une batte de baseball pour changer, quoi.
En gros, oui, en plus.
Qu'il le fracasse, enfin, d'accord, mais pas avec une baramine, non.
Oui. Enfin bon, c'est toujours pour avoir la même référence, à savoir Death in the Family, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, le Joker arrive à s'en sortir, évidemment, c'est le Joker. Et Damian est un petit peu débutant, on va dire. De son côté, le commissaire Gordon et Batman version Dick Grayson sont en mauvaise posture. Et d'un autre côté, le docteur Hurt s'apprête avec le sergent Cochon. Non, je sais pas comment il s'appelle, en fait. Il est avec un espèce de type qui a un masque de cochon. Alors, je sais plus comment il l'appelle.
On voit depuis quasiment le début de Batman et Robin.
Oui, je crois que c'est le docteur quelque chose aussi. Ça doit être le docteur Pig ou un truc dans le genre, quoi. Et il s'apprête à l'aide de ce sinistre individu à passer à la seconde phase de son plan. Donc il kidnappe le commissaire Gordon. Donc d'un côté on a le Joker qui a kidnappé Robin version Damian et de l'autre le docteur Hurt qui a kidnappé le commissaire Gordon.
Qui
Batman va-t-il aller sauver?
Vous le saurez dans la prochaine partie.
Sachant que le Joker dit à Batman qu'il aura besoin de lui pour abattre The Black Glove, donc le Gant Noir, donc l'organisation du Dr. Hurt, et que donc voilà, il doit s'allier au Joker pour... Enfin, le Joker lui propose une alliance pour abattre le Dr. Hurt, puisqu'il a une dent contre le Dr. Hurt, le Joker, depuis Batman Rip. Voilà, donc franchement, alors, du classique, vraiment du classique, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de... Il y a rien de très novateur là-dedans. C'est écrit à la Morrison. Alors le personnage du porc là, du cochon est assez assez perturbé.
Oui, il doit s'appeler Franck, je pense.
Non, non. Je voulais pas le faire parce que ça se fait vraiment pas pour ce pauvre Franck Porc qui ne l'a pas mérité. Mais surtout que ça ne s'écrit pas pareil, comme disait Kiwi. Mais bon. Enfin voilà, donc du Grant Morrison à l'écriture, mais
ce n'est pas du grand Morrison.
Franchement voilà, quoi, peu inspiré.
Tu as raté ma vanne, c'est dommage.
Ah merde, excuse-moi. Vas-y.
Tu disais du Grant Morrison et je te répondais oui, mais ce n'est pas du grand Morrison.
Voilà. Exactement. On t'aurait compris en lettres. Donc c'est franchement. C'est toujours pareil, hein. Les fans, ils sont nombreux de Grant Morrison sur Batman, achèteront sans doute, de toute façon, quoi qu'on en dise. Donc, pour moi, c'est un pass. Attendez le TPB. Voilà. Attendez le TPB, ce sera bien plus simple. Puisque là, voilà. C'est $3.99, je crois, pour ça. Franchement, c'est décevant. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus. Voilà.
D'accord. On va passer à la suite. On reste chez DC pour la dernière review solo, en tout cas la mienne, de cette semaine. Adventure Comics numéro 518. Toujours scindé en deux, avec une première partie sur la Légion et un co-feature sur Atom. Donc la première partie est écrite par Paul Levitz, au dessin Kevin Sharp, à l'ancrage Marlo Alcuizza. On continue sur cette espèce d'organisation qui essaye de voler... pas mal de ressources et la Légion débutante.
Excuse-moi.
À tes souhaits, ce n'est pas grave. Cette Légion débutante essaye de les en empêcher. Donc, on voit la Légion se garnir de membres peu à peu. Tout ça se passe dans le passé. Mais j'en viens quand même à me demander quel est l'intérêt d'avoir deux séries sur la Légion, dont une se passe dans le présent et nous compte des nouvelles aventures, et d'autres, enfin, l'autre en tout cas, se passe dans le passé. Donc il n'y aura pas de conséquences majeures à tout ce qu'on pourra lire, puisque de toute façon, il peut pas tuer un personnage, puisqu'on sait que les personnages sont toujours en vie, ou etc. Mm-hmm. Donc nous faire une sorte d'Untold Tales, en fait.
Ouais.
Voilà. J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt de tout ça. Surtout que bon, c'est quand même assez moyen, au final. C'est sympathique, mais c'est assez moyen. On voit Phantom Girl essayer de charmer un petit peu Superman, enfin Superboy à l'époque. Superboy qui va dans le musée où sont entreposés tous les trucs qu'on avait pu voir d'ailleurs, le musée qu'on avait vu.
Mais ça va se transposer dans le présent à force ou ça va rester toujours
Je sais pas. Je sais pas s'il y aura des conséquences. Vu que Paul Levitz écrit les deux séries, à la rigueur, il peut très bien faire intervenir des choses qu'il a placées dans cette série-là, qui est censée se passer en passé, dans sa série présente. Mais bon, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Ça fait un peu retcon. Je pense que voilà, il y a peut-être des choses qui seraient peut-être plus intéressantes à faire. Peut-être nous faire des dans Adventure Comics, toujours sur la Légion, mais nous faire des aventures solo peut-être de certains personnages, ou juste des petits tandems qui se passeraient dans le présent, pendant que toute la Légion n'est pas toujours en mission. Dans chaque numéro, donc deux trois membres de la Légion qui vivent une aventure à côté et qui se passerait en présent, qui pourrait avoir des conséquences. Voilà, ou s'il arrive quelque chose à l'un d'un côté, ça aura des répercussions sur l'autre série.
Ouais. Mmh.
Là voilà, Superman se balade donc dans ce fameux musée, il voit Doomsday, il a des réflexions du genre oh là là, dire qu'un jour je serai tué par lui, mais je sais pas quand, j'ose pas regarder la date. De toute façon, ça me sert à rien puisque Saturn Girl m'a mis un blocage télépathique et du coup à chaque fois que je reviens dans le présent j'oublie tout ce que j'ai appris dans le futur. Enfin, quel est l'intérêt de nous faire une scène comme ça? Enfin, voilà, là honnêtement, j'ai l'impression que Paul Levitz s'embourbe un petit peu avec cette série. C'est mon avis, hein.
C'est la série de trop, quoi, c'est-à-dire qu'il te ferait mieux d'avoir qu'un titre.
Déjà que Legion n'est pas fameux, hein, donc.
Oui, mais j'avais eu du mal avec le premier, alors je suppose que t'as lu les suivants.
Pas tous, je dois avoir deux numéros de retard, mais c'est pas super fameux, quoi. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Paul Levitz, qui est quand même un maître sur la Légion, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. En tout cas, le co-feature, lui, d'Atom, est toujours excellent. Donc scénario de Jeff Lemire, dessin de Mahmoud Asrar et ancrage de John Dell. Bon, je sais, sur Jeff Lemire, je suis pas super objectif. Mais franchement, c'est toujours très très bon. Là, Atom continue de chercher un petit peu qui lui a pillé son labo dans le numéro spécial qu'on a vu. À la fin du dernier numéro, il avait enfin un nom d'une organisation qui essayait de le traquer. Et son professeur, le professeur avec qui il est ami et avec qui il partage ses secrets, était lui attaqué dans sa maison par cette organisation, avec des atomes, en fait, des gens qui ont un peu un même costume tout noir et qui peuvent se rétrécir comme atomes, enfin comme lui, quoi, qui ont les mêmes pouvoirs que lui, grosso modo.
D'accord.
Il va à son secours, il essaye de le défendre et apparemment ces autres atomes veulent simplement lui parler. Ils voudraient savoir où il a caché les fragments du météore qui lui permet de rétrécir sans perdre de sa structure moléculaire. Et voilà, il leur arrive un petit truc. Bref, je vais pas vous le révéler puisque ça vaut le coup d'être découvert par soi-même. C'est assez sympa. Donc voilà, le co-feature est pour moi vachement meilleur que l'histoire principale, donc peut-être faudrait-il inverser.
Ok.
Je sais pas. Donc dans l'ensemble, c'est juste un check-it, quoi, parce que le meilleur c'est juste 10 pages. Est-ce que ça vaut le coup de payer autant pour juste 10 pages?
Oui, le meilleur est pour la fin, quoi.
Voilà.
Alors comment ils vont faire avec le co-feature? Est-ce qu'ils vont le sortir en TPB tout seul?
Ah ben je sais pas. Justement, je ne sais pas. J'en ai aucune idée.
Ouais, d'accord.
Mais en revanche, par contre, j'ai pas, faut quand même que je précise, les dessins de Kevin Sharp sur la partie de la Légion sont vraiment très beaux. Il se fait vraiment plaisir à mettre en scène des grosses batailles avec plein de légionnaires partout, des explosions et tout. C'est vraiment très joli, mais ça rattrape pas vraiment le scénario quand même. C'est dommage.
Voilà. Puis Atom n'a pas grand chose à voir avec de toute façon la Légion.
Non, c'est vraiment limite à l'ancienne, à l'époque des magazines type. Ça y est, j'ai perdu le mot, Brave and the Bold par exemple.
Ouais.
Ou justement Adventure Comics, ancienne formule, où il y avait plusieurs petites histoires qui n'avaient pas forcément de lien entre elles, quoi. Ou World's Finest par exemple.
D'accord.
Ou même on avait la même chose dans les Batman, dans les Superman, etc. Par exemple, dans les Batman, on avait, fut un temps, Martian Manhunter qui paraissait dedans, qui n'avait aucun rapport avec Batman.
Ouais.
Bon, il y avait le côté détective un petit peu, mais c'est pas du tout le même type de super-héroïsme.
Et puis il y avait même d'autres bandes dessinées qui n'avaient rien à voir. Il y avait un truc avec un gendarme, là, je pense.
Oui, il y avait aussi des trucs de guerre, il y a eu pas mal de choses, quoi. Donc voilà, donc pour moi, c'est qu'un check-it parce que Legion n'est pas forcément super intéressant, quoi.
D'accord.
Pour moi, il faudrait vraiment qu'ils changent la formule parce que je pense pas que ça ira très loin et ce serait dommage de casser une bonne franchise comme ça, bêtement.
Ok.
Voilà, je te laisse la parole pour ta dernière review solo, les dernières reviews solo de la semaine.
Oui, dernière review solo de la semaine et on ne déroge pas à la règle puisque, enfin si, on a failli déroger à la règle, je devais faire autre chose et finalement je n'ai pas trouvé à temps le comics en question. Donc, Shadowland.
Le running event.
Le running event de Comics Weekly Shadowland qui reste bien sympathique. Enfin, surtout pour, en ce qui me concerne, la série principale et Daredevil. Et justement, ce dont je vais parler, c'est Daredevil 510. Donc, le scénario est de Andy Deagle et il est épaulé par Anthony Johnson. Et les dessins sont de Marco Cecchetto. Alors, on retrouve, comme à d'habitude, un petit peu les personnages autour de Matt Murdock. Donc, on retrouve Dakota Fanning et puis... Dakota Fanning, n'importe quoi. C'est le nom d'une actrice. Dakota. Dakota North, je crois.
Oui, Dakota North, oui. Je me demandais où tu te barrais, là, d'un coup.
c'est énorme, quand même. Voilà, Dakota North et Foggy Nelson, qui sont toujours à l'agence... Nielsen et Murdock, et qui se font attaquer, comme d'habitude, par des ninjas de la main. Ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que là, non seulement Dakota montre qu'elle ne se laissera pas faire, mais en plus, ils sont aidés par quelqu'un d'ailleurs, que je ne vais pas révéler. Voilà. Quelqu'un qui vient leur prêter main forte.
Je sens la review aussi énigmatique que celle de la semaine dernière.
Énigmatique pour le, je vais pas révéler qui intervient, quoi, ce serait bête. Là-dessus, on assiste à une scène aussi avec le détective Kurtz, qui se rend compte que, grosso modo, tout le quartier, donc, de Shadowland, de l'anciennement Hell's Kitchen, est en train de partir totalement en sucette. Donc voilà.
Ouais, et dis donc, quel fin limier celui-ci quand même. Il m'a fallu 3 mois pour s'en apercevoir.
C'est un vieux roublard. D'ailleurs, c'est un petit peu le clone du commissaire Gordon. On le voyait au fait déjà dans les épisodes de Brubaker, mais je l'avais pas remarqué à l'époque. Mais là, la ressemblance avec Gordon est d'autant plus frappante, quoi. Puisqu'il y a cette opposition, enfin cette espèce de relation un peu étrange à Daredevil, qui rappelle la relation un petit peu qu'il avait avec Batman. Oui, donc, enfin là, il se rend compte que vraiment il y a des excès de violence, enfin de pire en pire, quoi, on va dire. On voit aussi donc les Heroes for Hire, donc avec notamment Iron Fist et
Luke Cage.
Et Luke Cage. Et encore une fois, un invité surprise. Enfin, surprise, on peut deviner qui c'est. Vient leur rendre visite pour leur proposer son aide. Donc pour évidemment abattre Matt Murdock, enfin en tout cas pour lui faire cesser ses activités. Et au sein de l'équipe donc de Matt Murdock, les choses ne se déroulent pas tellement comme elles devraient, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de dissension dans l'air, et l'épisode se termine par la mort apparente d'un personnage, on va dire, clé de Daredevil.
D'accord, mais ouais, tu encore une fois, tu mets l'eau à la bouche. Et...
Donc, à voir.
Je vais faire une dépense de plus.
À voir, oui, à voir. Alors, un peu moins prenant que le Shadowland numéro 3, parce qu'il y a moins de persos, quoi. Ça pète moins. Enfin voilà, il se passe quand même un peu moins de choses, mais ça reste toujours très bon, très prenant. Il y a du suspense, et c'est surtout bien dosé, quoi. C'est bien rythmé, on ne s'ennuie pas, au fait. Mais par contre, bon, alors, il y a pas mal de tie-in, donc voilà, quoi, les tie-in, ça dépend. Je suis moins conquis par les tie-in, hein, je te dis franchement. Jusqu'à maintenant, toi, tu as lu Power Man, qui était pas mal.
J'ai lu Power Man, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'attends de voir la suite.
Tiens, d'ailleurs, je viens de le remarquer, je n'avais pas remarqué ça, au fait. La personne qui apparemment serait morte à la fin de Daredevil, sa traînée de sang forme, au fait, deux DD sur le sol, quoi.
Enfin, mais qui l'a tué? Omar?
Oui, voilà. Non, mais c'est assez marrant, quoi. J'avais pas vu. Donc, voilà. Et donc, pour moi, c'est un bail, bien sûr, hein, de toute façon.
Et le premier bail de la semaine, pas mal.
Le premier bail de la semaine. On termine en beauté. Ouais. Donc voilà, un bail et un événement à suivre, évidemment, puisque c'est l'un des événements les plus sympathiques du moment chez Marvel.
Bien. Et bien, sur ce, on termine notre Comics Weekly. Pas de mail cette semaine, pas de message sur le répondeur non plus. Répondeur, n'hésitez pas à nous laisser un message, on vous diffusera à l'antenne et on répondra à la question.
Là, quand même, là, ça fait deux semaines que le répondeur est en place. Voilà, allez-y, non.
Donc, si vous me posez une question, on y répondra. Je vous rappelle le numéro, c'est le 09 70 440 497. Ou par Skype. Vous ajoutez Comic City à votre liste d'amis et vous laissez un message par Skype. Voilà, tout simplement.
Vous êtes, en tout cas, en termes d'écoute unique, environ 400 à nous écouter.
En moyenne.
Donc,
ouais.
Donc,
des fois plus, des fois moins. Ça dépend.
Des fois plus, des fois moins. Et puis avec le temps, ça augmente. Mais on va dire, en l'espace de quelques semaines, quelques jours, parfois, on arrive à ce chiffre-là. Donc c'est très bien, bravo. Mais donc, vous êtes potentiellement 400 personnes à pouvoir laisser un message.
Alors, pitié, pas tous la même semaine, on ne pourra pas tous vous diffuser. Quoique, voilà. Si vraiment on a vraiment beaucoup trop de messages, on pourrait très bien faire une émission spéciale question des auditeurs.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Avis à la population.
Voilà, exactement.
Vous avez aussi, il n'y a pas que le répondeur, hein, si vous n'aimez pas parler, si vous n'avez pas envie d'être diffusé, j'ai tapé dans le micro, voilà. Si vous n'avez pas envie d'être diffusé à l'antenne, de nous faire entendre votre voix, vous pouvez nous laisser un message par les commentaires. Vous pouvez très bien poser une question dans les commentaires, on y répondra. Vous pouvez laisser un message sur Facebook aussi. Vous pouvez laisser un message sur Twitter. Enfin, vous pouvez, voilà, vous connaissez la procédure. Ou nous envoyer un mail à l'adresse podcast@comiccity.fr. J'avais oublié de préciser la semaine dernière, podcast@comiccity.fr. Sinon, ça marche pas. Et puis voilà, hein, on vous répondra du mieux que l'on peut.
Avec des mots. Dans le bon ordre, si possible.
Non, mais on n'a pas la réponse à tout non plus.
Non. Voilà. Mais on a des réponses à donner.
J'ai l'impression qu'on rame un peu, non? Tu trouves pas?
Oui, non, mais j'ai l'impression surtout que je cherche le mot de la semaine puisque je l'ai.
Ah, tu ne l'as pas. Oh.
Donc, ça, je vais terminer sur un truc facile à ce moment-là cette semaine.
Eh bien, je t'écoute.
C'est bon, on peut y aller?
Mais vas-y.
Allez.
Avec plaisir.
Donc, Zuren Ahr.
Oh, oui, facile, oui, effectivement. Et bien, donc, c'est sur ce mot qui nous a déclenché quelque chose dans le cerveau que l'on vous quitte et on vous dit à la semaine prochaine dans Comics Weekly et à dans quelques jours dans Comic City. À bientôt tout le monde.
Ciao.